gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h, c'est la causerie. Et oui, parce que, parce qu'on est là, tout simplement. C'est une bonne raison pour laquelle vous avez une émission ce soir sur les ondes de Radio Canut qui s'appelle La Causerie. Et ce soir, autour de la table, nous avons Clara à la technique.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Bonsoir. Et Fab qui faisait l'ouverture.
Salut. Et si toi, tu as très très envie d'écrire à La Causerie, tu vas le faire. Mais tu vas le faire sur un mail qui est
lacauseriecanu@gmail.com.
Tout attaché. Voilà. Et sinon, tu peux nous joindre via le blog qui se trouve à...
à blogs, pardon. blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà, c'est bien, tu as bien enchaîné. Bah, en fait, ce que vous savez pas, ce que vous voyez pas, c'est que je ne l'avais pas trop prévenu que je lui demanderais les trucs et
c'est
tout.
C'est ça, et que j'entendais rien, j'entends pas mon... Enfin, j'entendais...
Tu t'entends mieux, là ?
Là, ça va mieux, c'est bon. Tu te sens bien, ça va.
Et sinon, on a une page Facebook.
C'est ça.
Voilà. Et donc, sur laquelle, par contre, on répond pas trop. Enfin, parce qu'il y a une question pratique, donc... Encore une fois, le mail pour nous joindre, c'est plus pratique.
Pour les commentaires, c'est sur le blog.
Ouais.
Parce que ça peut servir aussi à celles et ceux qui ne vont pas forcément sur ce réseau social, de pouvoir quand même participer des fois à certains échanges qui peuvent avoir lieu.
Tout à fait, voilà. Et bien on a tout dit, donc une causerie au format habituel, on fait toujours des coucou à ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir dans la causerie. Et donc Jean-Yves, ce soir tu voulais démarrer avec une sorte de mur de la honte, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, il va y avoir un nouveau mur en Europe et en France. Oui, vous pouvez être fier d'être français. Non, alors en fait, je vais resituer un peu tout ça. Donc, ça se passe à Calais, vous l'aurez peut-être deviné, ou je l'ai peut-être dit de même. Donc, je vais resituer un petit peu tout ça, l'historique de cette construction. Donc, c'est le mardi 6 septembre, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le gouvernement britannique, par le biais de Robert Goodwill, qui est le secrétaire d'État chargé à l'immigration, qui lui a déclaré un truc, que je vous dirai. Donc la Grande-Bretagne va construire donc un mur de part et d'autre de la rocade qui mène au port de Calais. Et donc ce Robert Goodwill, secrétaire d'État chargé de l'immigration du Royaume-Uni, a donc déclaré « Nous avons construit des clôtures, désormais nous construisons un mur ». Alors je sais pas s'il y a une forme de waouh, on fait de mieux en mieux ou de pire en pire. Ben,
c'est un peu le sens de sa phrase quand même.
Oui.
Mais alors pour bien situer, ça veut dire que le Royaume-Uni va financer un mur qui est sur le territoire français,
c'est
pour
ça.
Être clair, entre la jungle de Calais et Calais.
Ouais, c'est
pour
ça. Alors justement,
ça,
ouais.
Et la rocade de Calais, mais en fait,
c'est
la,
ça.
La
en
rocade fait le tour de la ville.
Alors ce magnifique mur, hein, je vous donnerai peut-être quelques détails après croustillants sur ce mur qui est, je pense, à la pointe de l'écologie. prévu donc sur 1 km, hein, l'ouvrage coûtera environ 2,7 millions. Au gouvernement du Royaume-Uni, qui a promis d'en financer la construction. Hein. Donc le mur, donc au-delà des 1 km aussi, il fera 4 mètres de haut. Hein, pour être sûr.
Ça fait un mur d'une longueur d'un kilomètre sur 4 mètres de haut.
C'est ça.
Ah ouais, c'est pas mal, quoi.
Ouais, c'est sympa. Et il doit être construit, c'est là où l'Europe est belle, parce que c'est la France qui va le construire, ce mur. C'est pas sympa, ça. Pardon, j'en ris, mais c'est parce que, enfin, à un moment donné...
C'est ignoble, en fait.
C'est ça. Donc, ce sera construit, effectivement, par les services français de la Direction interdépartementale des routes, la DIR, ça la vous DIR, dit sûrement quelque chose. Et sera donc sur le long de la route nationale 216 qui conduit au port de Calais. Mmh. Alors là je peux pas vous le situer, mais sur internet vous tapez tout ça, vous allez trouver en fait justement cette route qui mène au port de Calais et toutes les différentes constructions qui se sont faites autour. Mmh. Alors je parle pas des bidonvilles, hein, je parle vraiment des constructions, alors je sais pas comment ils appellent ça, de défense, de clôture, enfin
c'est oui, clôture, c'est de défense, c'est... Hein, c'est le mot.
C'est ça.
Ouais. Donc, c'est horrible d'ailleurs d'imaginer qu'on a mis des défenses antipersonnelles en fait tout le long d'une route en France.
C'est ça. Et donc, il est dit que ce mur donc complétera les dispositifs existants pour empêcher les migrants de monter à bord des camions à destination de l'Angleterre.
Donc ça veut dire qu'ils vont pas mettre moins de CRS, qu'ils vont pas mettre moins de patrouilles, c'est... qu'ils vont pas enlever les barbelés qu'il y avait déjà.
Ils
vont
non.
Laisser vient, tout plus le mur.
Ça vient compléter le dispositif.
Bah, dis donc.
Et d'ailleurs le c'est le préfet du coin, le sous-préfet, qui a d'ailleurs rassuré tout le monde en disant qu'il n'enlèvera pas les CRS, hein, vraiment pour que tout le monde soit sécurisé quand même. Et il a quand même permis que, enfin, il a dit que ce mur permettra donc de mieux concentrer sur la partie sud de la rocade et sur l'A16. Hein, voilà, faut que les gens ils essayent de traverser sur une autoroute. C'est tellement plus sûr. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à tout ça, alors il est aussi, il est désigné sous le nom de mur anti-bruit et anti-intrusion. Hein ?
Donc, il sera... anti-bruit, pourquoi en fait ? Qui fait du bruit ?
À
cet endroit-là. Parce que, alors, pour vous qui connaissez pas Calais, je pense, pour la plupart, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, d'y mettre les pieds. La route dont on parle, alors, elle est pas du tout contre la ville.
Non.
Elle est en plein milieu d'une zone industrielle avant un port. Donc, je sais pas pour qui fait du bruit là. Ou alors, ça sous-entend de façon assez ignoble que ce sont les migrants qui font du bruit. La jungle de Calais.
Ou alors c'est peut-être pour présenter joliment un mur qui a tout de dégueulasse.
C'est clair.
En disant en fait c'est pour protéger les gens. En
ouais,
fait.
C'est...
Alors que c'est juste un mur pour repousser les gens. Donc quand même encore une bonne nouvelle, tout ça progresse hein, parce que les travaux préparatoires de fauchage et de débroussaillage ont commencé fin août. Hein. Bah ouais, attends, c'était pas les vacances pour tout le monde. Hein. Et le chantier est prévu pour 4 mois hein, et ça devrait donc terminer avant, rassurez-vous, les prochaines vacances de fin d'année.
Ah
oui, c'est ça le progrès, on fait des travaux rapidement maintenant.
Pour faire des murs a priori.
Oui, c'est ça. Alors donc, donc ce mur de béton, il sera aussi équipé hein, forcément de caméras de surveillance et d'un système anti-franchissement type OTAN.
OTAN.
Oui, de l'OTAN. Alors, aux dernières nouvelles, je crois que ce genre de truc anti-franchissement, des fois, c'est aussi des lames de rasoir
pour
bouger tout ça, pour que les gens, vraiment, on soit sûr qu'ils traversent pas, quand même.
C'est ce qu'il y a dans les enclaves espagnoles.
Voilà,
espagnoles,
c'est ça.
Médila, je crois.
Ouais, oui. Et donc, par contre, c'est là où, justement, je pointais la pointe, justement, en écologie, hein, c'est que ce mur sera végétalisé sur sa face intérieure.
C'est horrible.
Par contre, pas sur sa face extérieure, hein, parce
donc
que
il est bon pour la COP21 en fait.
Oui, c'est ça.
Ah bah voilà. Alors,
ah bah attends, écologie et nationalisme se marient très bien. Voilà, et donc bien évidemment hein, sur la face extérieure, il sera lisse.
Bah oui.
Pour que personne ne puisse grimper dessus. En fait, ça me fait aussi quand même penser à tous ces gens qui développent ces procédés. Quand on sait ce que ça va donner, c'est un peu comme tout ce mobilier urbain qui est posé parfois pour que les sans domicile puissent se poser ou les jeunes, etc. Voilà, il y a quand même ne puissent pas se poser, ouais. Pardon. C'est justement qu'il y a quand même des gens qui sont chichement payés pour pour réfléchir l'exclusion, quoi. Donc voilà.
Mais la rendre plus humaine. Écologique.
C'est ça. Donc voilà, hein, bon, alors ce projet, c'est l'Angleterre qui le porte, qui l'a lancé, mais c'est aussi en partenariat complet, hein, évidemment, avec la France. Donc ce projet anti-immigré, il est né dans le cadre des comités franco-britanniques, hein, qui depuis plusieurs mois, et même depuis plusieurs années, en fait, travaillent au renforcement de la sécurisation du port et d'Eurotunnel. Hein, point de passage vers la Grande-Bretagne, évidemment. Et donc, les Anglais, ils ont déjà financé beaucoup, 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 hein, parce que vraiment, ils veulent que personne rentre.
C'est des accords qu'il y a qui disent qu'ils financent ce qui se passe sur le territoire français. Comme ça, eux, ils n'ont pas à gérer les migrants chez eux.
C'est ça, comme l'Europe le fait
avec la Turquie.
La Turquie d'Erdogan, et comme elle a pu le faire avec la Libye de M. Kadhafi. Feu Kadhafi. Il est mort, non ?
Oui.
Oui.
Oui, il y a un moment quand même.
Oui, pardon.
Il nous manque pas, c'est pour ça que t'en pensais plus, mais... mais il est mort.
Et donc, voilà. Donc, eux, ils ont déjà financé des clôtures installées en 2015 pour un coût d'environ 15 millions d'euros. Hein, quand même, qui comprend aussi d'autres travaux de sécurisation comme la mise en eau des terrains qui sont autour d'Eurotunnel.
Ouais.
Vous voyez, vraiment, pour que vraiment on soit sûr que quand même personne n'y arrive, quoi.
Ça s'appelle une douve. C'est-à-dire, c'est ce qu'on faisait autour des châteaux, vous voyez.
C'est ça.
C'est quand même, non, mais on voit, ils sont inventifs, hein.
Bah, pas tant que ça, en fait. Hein. Les bourgeois se protègent toujours de la même manière.
Oui, c'est ça.
Donc, 15 millions d'euros, hein, c'était ça. Ils ont aussi, en juin 2016, ils ont prolongé certains grillages, quand même.
Ah ouais, oui.
Pour 770 000 euros. Donc, voilà, hein, c'était quand même pas mal. Alors, autour de ça, il y a eu des réactions. Hein. Il y a le mercredi 7, donc on était le lendemain. Hein, c'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui lui a assuré que le démantèlement de la jungle se ferait, mais pas sur le modèle de Sangatte.
Ce qui est purement dégueulasse, parce que c'est faux.
Mais oui.
Et que je voudrais juste signaler qu'il y a des photos qui circulent, qui viennent de l'AFP, où on voit des nuages de gaz lacrymogènes qui sont balancés de nuit sur la jungle de Calais. Si ça, c'est pas pour faire partir les gens.
C'est ça. Donc, ils feront comme la droite, mais pas devant les caméras. C'est peut-être
c'est ça
qu'ils veulent
de
dire.
De nuit.
Donc, ce sera pas pareil que Sangatte. Voilà, voilà. Donc, Sangatte, hein, c'était en 2002 quand même. Hein. Moi, en faisant mes recherches, je me suis dit, ah ouais, Sangatte quand même, enfin, 2000, enfin, ça, on est quasi 15 ans déjà.
C'était Jospin d'ailleurs.
C'était Sarko.
Ah, c'était Sarko.
C'était Sarko, ouais.
D'accord.
Et alors, il a aussi appelé Bernard Cazeneuve à la solidarité des communes françaises pour accueillir des migrants de Calais. Voilà. Le jeudi 9, il y a la maire de Calais qui répondait quand même que, en fait, ça sert à quoi de faire un mur si on démantèle en fait la jungle.
Elle est logique la mère de Calais.
Bah, ce qui est dans un certain avis,
non mais je n'enlève pas, c'est qu'en fait elle dit mais quelque chose de très juste, c'est que si on veut démanteler la jungle, pourquoi on fait un mur ?
Bah oui, en fait. Enfin, quand même,
voilà.
Donc voilà, elle dit que c'est complètement incohérent, enfin de vouloir faire ça. Voilà, voilà, je continue dans mes petites infos que j'ai pu cueillir par-ci par-là. Alors après, c'est aussi un point de vue sur la politique intérieure en fait anglaise. Parce que c'est toujours comme ça aussi. Enfin, je veux dire, l'Europe fait ses forteresses à l'extérieur de ses frontières. C'est pourquoi ? C'est pour aussi calmer son bon peuple qui aurait peur de ses migrants, hein, évidemment, tout ça, tout ça. Et en Angleterre, ça se passe pareil, parce qu'en fait, ça se passe partout pareil, en fait, dans le monde. Et donc, c'est intéressant quand même de resituer. C'est donc la première ministre qui est maintenant Theresa May. Pardon, elle avait été ministre de l'Intérieur, en fait, entre 2010 et 2015.
Et très très dure ministre de l'Intérieur, d'ailleurs.
Ouais, et elle était particulièrement sensible aux inquiétudes des édiles du Kent. Donc le Kent, c'est donc
au-dessus de l'Angleterre.
Voilà.
Oui, dans le Royaume-Uni, il y a l'Angleterre, en dessous, il y a le Kent.
C'est voilà. Ça, et qui est donc le point d'arrivée des migrants dits illégaux qui viennent de Calais. Et en fait, ce bastion, il est traditionnellement, un bastion conservateur.
C'est moins qu'on puisse dire.
Mais il est aujourd'hui menacé par la percée des populistes xénophobes de UKIP.
Ah oui, ce fameux parti complètement presque nazi, mais pas trop. Quoi.
C'est ça.
Ouais.
Bah, c'est ça. C'est le Front National version British.
Ouais, c'est ça. Ouais. Hein,
mais ils ont encore le National Front aussi.
Ouais, c'est compliqué.
Ouais,
mais
ils ont plusieurs partis.
L'équipe, ils disent qu'ils ne sont pas racistes, mais qu'ils veulent juste qu'il n'y ait personne qui arrive chez eux.
Pardon. C'est ça. Donc voilà. Hein, donc, quand même, autour de ça, il y a des réunions qui se font entre le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Ah, un mec très ouvert aussi.
T'es. Aussi. Qui a rencontré le député de Douvre, Charlie Elpic, je pense, pardon, au port dont est propriétaire la région, donc des Hauts-de-France. Et tout ça, c'était en vue de nouer un partenariat en vue de l'après-démantèlement.
Ouais.
Mais on va quand même construire un mur. Enfin bon.
Ouais, c'est un truc qui ça se sent pas très bon pour les migrants.
Non, c'est ça. Et donc, en fait, tout ça, c'est quand même pour échanger sur la crise migratoire et à chercher ensemble, dans une approche bilatérale, des solutions concrètes sur le long terme. Voilà, voilà.
En fait, dans cette discussion-là, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, ils parlent de répartition. Parce que la réalité est là, hein, faut arrêter de se mentir, c'est qu'en fait, les Hauts-de-France demandent au Royaume-Uni de prendre une partie des gens qui sont dans la jungle de Calais. Et donc, on est en train de négocier des humains. On est en train de se dire, je t'en prends 100, non, tu vas me prendre 150, vous voyez, c'est horrible.
Parce que, de l'autre côté, effectivement, il y a les Hauts-de-France, et qu'il y a aussi, il y a du politique qui se passe, c'est-à-dire qu'ils veulent calmer la populace qui est des fois énervée, et qui est des fois bien plus qu'énervée, voire fasciste, hein. Et donc, ils essaient de négocier, on négocie des humains.
Faut être clair, c'est dont on parle quand même.
Donc voilà, après en Angleterre, il y a aussi des réactions, hein, on va pas foutre tout le monde derrière un gouvernement, comme ici. Donc l'association, alors ça c'est intéressant, l'association britannique des chauffeurs routiers, pense que c'est une mauvaise utilisation des fonds publics. Alors eux, en fait, ils s'expriment parce que j'ai vu des images, mais en fait, ils ont... des fois, en fait, il y a des migrants qui balancent des branches et tout devant les camions pour qu'ils s'arrêtent.
Sur la 16.
Sur la 16.
Sur l'autoroute. Donc, là où c'est pas protégé, en fait.
C'est ça. Et pour que les mecs s'arrêtent et qu'ils montent dans leur camion. Donc, eux, en fait, ils disent, non, mais arrêtez. Enfin, ça sert à rien de faire un mur quand même. Ça sert absolument à que dalle.
Et leur communiqué, très clairement, n'est pas xénophobe, comme j'ai pu l'entendre. C'est plutôt, eux, ils n'ont pas envie d'écraser des gens. Oui. Parce que le vrai problème des chauffeurs routiers, c'est qu'un camion, ça s'arrête pas en 2 mètres. Et qu'ils ont une trouille bleue. Et il faut savoir qu'il y a 20 morts par an sur l'autoroute actuellement de gens qui se font écraser par des camions et que du coup ils disent non ça suffit, on n'est pas là pour tuer des gens. Et ils ont vraiment une position de préservation des migrants, contrairement à ce que certains laissent croire que tous des gros fachos machin, et c'est pas du tout le sens de leur demande, hein.
C'est ça, eux ils demandent une amélioration de la sécurité le long des voies.
C'est normal, mais
parce qu'ils ont envie de tuer personne, je peux les comprendre. Il y a les députés verts Caroline Lucas qui a qualifié le mur de monstrueux. Et évidemment, sur les réseaux sociaux et certains internautes ont quand même fait une comparaison autour du mur de Trump que lui veut ériger entre les États-Unis et le Mexique, et ce mur-là que l'Angleterre veut ériger, et certains faisaient le parallèle entre la Trumpisation du Royaume-Uni. Donc voilà, y a aussi des militants no border, hein, donc c'est sans frontières, internationalistes
et sans frontières.
Voilà, et il y a aussi François Guénot qui est vice-président de l'auberge des migrants, donc sur Calais, qui lui dit que ce dispositif va juste déplacer le problème. Résout absolument rien, c'est une certitude, parce que les migrants ils tenteront quand même de monter dans les camions juste un peu plus loin.
Et donc en étant encore plus en danger, en fait, c'est ça le problème.
C'est ça, où il n'y a ni mur ni grillage, voilà.
Mais il y a une autoroute.
C'est ça. Et donc parce que j'ai terminé quand même rapidement là-dessus, c'est que le Royaume-Uni comme la France, en fait comme presque tous les pays européens, excepté l'Allemagne de Merkel et encore, enfin l'essai de se dépatouiller au milieu de tout ça, ils ne veulent en fait accueillir de migrants sur leur sol. Hein. Et en fait c'est pour ça que ce que je disais, hein, ce que tu disais, on passe des accords avec Erdogan, donc comme on a pu en passer avec Kadhafi, et on laisse crever les gens dans le désert et dans la mer. Donc voilà, mais au moins en France, on peut se dire qu'on a les mains propres, ça arrange tout le monde. Et en Angleterre comme en France, hein, pour lutter contre les fascistes, donc le UKIP ou le FN ou autres, hein, les gouvernements pratiquent une politique raciste, nationaliste, avec leurs petites frontières, avec tout ça, avec le danger qui viendra de l'extérieur, tout ça. Et c'est les mêmes qui disent qu'ils ne veulent pas les fascistes au pouvoir. Donc je sais
ils
pas.
Ils n'ont pas besoin d'être au pouvoir en général.
C'est ça. Hein.
Leur influence suffit.
C'est ça.
C'est ce qui est malheureux.
Ça marche bien.
Mais moi, c'est un truc que je voulais quand même. Je me dis des murs, des barbelés. C'est pas un truc qu'on avait démantelé au milieu d'une ville. Ah oui, Berlin, c'est ça.
C'est ça.
Et c'est marrant, on y revient quand même.
C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, ce que je terminais aussi, c'était que. On règle pas du tout le problème des gens. En fait, c'est des gens qui fuient la merde, qui fuient la guerre, qui fuient la mort. En fait, ils fuient juste la mort en la risquant, parce qu'à un moment donné, t'as juste envie de vivre. Et que, encore une fois, je crois que si on veut vraiment essayer de changer des trucs, faudrait qu'on change nous-mêmes nos propres regards sur toutes ces personnes. C'est juste des gens qui fuient la mort. Et même s'ils fuyaient pas la mort, en fait, on a le droit de circuler, quoi. C'est peut-être ça aussi qu'il faudrait qu'on réaffirme chez les progressistes, c'est la libre circulation des individus. Et qu'on s'en fout en fait d'où tu viens.
Et bizarrement, quand il n'y a pas de bombe sur vos têtes, vous bougez beaucoup moins. C'est une phrase d'une migrante que j'ai trouvée très bien. C'était une petite fille de 7-8 ans qui disait ça dans un reportage. Qui disait, vous savez, quand les gens ils n'ont pas de bombe sur leur tête, ils bougent moins. Et en fait, tout est dans la parole de cet enfant, en fait.
Et on va la laisser clôturer cette chronique. Et puis, on va passer à la musique.
passer le temps. Entre la première cuite et le dernier enterrement, je me sens plus ou moins en phase avec mon époque. Les déceptions qui s'entassent loin des starting blocks. On se rêve une vie moins âpre, une existence apaisée. Mais nos salaires s'égrènent en drogue, en boisson alcoolisée. La bataille est rude afin de garder la santé, pour ne pas finir dans le vide à la rubrique des chats écrasés. Je garde la tête dans le placard, la PER, les somnifères. Je sors que lundi soir mais ça me fout déjà bien à l'envers. Le reste de la semaine, je disparais, je me terre. Je médite sur la fin en essayant de lâcher l'affaire. Je reste sans moyens face à la paranoïa. Griffonne le mot anti sur les murs quand je rentre chez moi. Je recherche le calme au travers d'anxiolytiques, à court de trêve et de patience dans ma géopolitique.
Qu'ils crèvent tous, qui les autres mais pas les nôtres. Les négriers, chiens de garde, mercenaires et apôtres. Qu'ils s'étouffent, si ils se vautrent comme des ogres. Nos langues acérées restent en travers de leur gorge. Ah ouais, tu trouves ça mesquin? Penses-tu vraiment que c'est moi qui t'esquinte? Penses-tu vraiment que j'ai du sang sur les mains? Pour ma part, j'en ai bien moins que certains.
On avance mais rien ne change, surtout pas le manque d'argent. Dehors un vieux temps de merde, un hiver 11 mois par an. J'ai des bougies en réserve en cas de coupure de courant. Et pour mes crises de nerfs, quelques feuilles de papier blanc. Je dégueule les mots qui me restent en travers de la gorge. Un crayon me suffit, je t'avouerai même que ça me détend. A l'instar de l'instable caractère que je me forge, je continue mon chemin en méfiant des bons sentiments. Constater qu'on entame l'air où s'éteignent nos compagnons. Se demander comme ça qui sera le prochain sous la dalle. Sans jeter une dernière à la santé de nos illusions. Se réveiller nostalgique avec une migraine magistrale. Autant de phases que ginal, de façon machinale. Les crachats en rafale, les crampes intestinales. La mort aux dents, la descente et les heures creusent me hantent. Mais trop de choses me retiennent pour appuyer sur la détente.
Qui crèvent tous, qui les autres mais pas les nôtres. Les négriers, chiens de garde, mercenaires et apôtres. Qui s'étouffent, si ils se vautrent comme des ogres. Nos langues acérées restent en travers de leur gorge. Ah ouais, tu trouves ça mesquin? Penses-tu vraiment que c'est moi qui t'esquin? Penses-tu vraiment que j'ai du sang sur les mains? Pour ma part, j'en ai bien moins que certains.
Et vous êtes toujours à la causerie. On vient de s'écouter La Gale avec Rinox et le titre c'était Rubrique des chiens écrasés. Et on continue, c'est Fab, tu veux nous parler d'un racisme latent ?
Ouais, je vais revenir sur une affaire dont certains ont entendu parler, puis plein de gens pas en fait. C'est ça qui est assez bizarre. Mais... Donc ça remonte au 12 août. Ça remonte un peu, mais c'est des conséquences qu'il y a après dont je vais le plus parler. Donc le 12 août, Monsieur Zhang Shaolin, 49 ans, tailleur, père de famille, est décédé des suites d'une altercation, comme disent les médias, en fait des suites d'une agression en réalité, parce que c'est pas une altercation quand on vous saute dessus pour vous voler votre argent et qu'on vous tape, ça s'appelle une agression. Et il a la particularité, Monsieur Zhang Shaolin, d'être chinois de nationalité. Alors, on va reprendre un petit peu les faits. Il a été attaqué par trois personnes avec un ami à lui qui s'appelle Keishu Ren, qui lui a 48 ans. Il a heurté le sol avec sa tête, voilà, et il a été emmené à l'hôpital ensuite. Et en fait, à l'hôpital, il a été pris de nausées et de vomissements, de fatigue latente et de douleur du côté gauche, je crois, de la tête. Je suis désolé si je me trompe de côté. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'à l'hôpital, qui pourtant devrait avoir des traducteurs dans diverses langues, il n'y avait personne qui traduisait le mandarin. Et ils ont mis assez longtemps à comprendre que, en fait, il avait un hématome subdural. Et donc, il est malheureusement décédé. Il est tombé dans le coma, puis il est décédé 5 jours plus tard de cet hématome subdural. Alors, je rappelle, un hématome subdural, c'est une poche de sang, c'est un bleu qui se fait au niveau du cerveau et qui comprime le cerveau. Alors, les trois agresseurs ont été arrêtés et ils ont avoué, je ne sais pas comment si on peut dire ça comme ça, mais enfin ils ont déclaré qu'en fait s'ils s'en étaient pris à M. Zhang Shaolin, c'est parce qu'en fait les Chinois sont riches. Donc en fait ils cherchaient de l'argent. Je vais juste préciser quand même qu'ils ont fait un énorme butin ce jour-là et qu'ils ont donc tué une personne pour un énorme butin, vu qu'ils ont gagné un paquet de bonbons, une paire de lunettes et des cigarettes. C'est vrai que...
Mais t'es très très riche.
T'es très 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 riche. Hein. Voilà, donc c'est assez... Et bien sûr, ils étaient partis aussi avec les papiers de la personne, ce qui a compliqué aussi son admission à l'hôpital. Enfin bref, il y a tout un tas de faits. Ce fait-là, en fait, a entraîné qu'une prise de conscience, d'après les médias, je vous expliquerai pourquoi je dis que c'est d'après les médias, et a entraîné une manifestation plusieurs manifestations, mais la plus importante a réuni entre 14 000 personnes selon la police, 25 000 selon la Ligue des droits de l'homme et 100 000 selon les organisateurs. Personnes qui sont descendues dans la rue pour demander plus de sécurité, plus de présence policière dans leur quartier et qui dénoncent le racisme anti-asiatique latent en France. Voilà. Alors, bien sûr, on peut critiquer quand on est dans une partie de la gauche et des anarchistes le fait qu'on demande plus de sécurité et de policiers. Sauf qu'en réalité, ils habitent dans des quartiers où on ne voit carrément plus la police du tout. Alors il y a des gens pour qui c'est un rêve, sauf si ces quartiers ne sont pas autogérés et que du coup, ça revient à y instaurer la loi du plus fort, ce qui est en fait en train de s'installer dans plusieurs quartiers du 13e arrondissement à Paris où se sont passés les faits. Donc voilà, donc tout ça, jusque-là, moi, quand j'ai vu l'information, je me suis dit, bah, c'est bien, il y a des gens qui se prennent en main, entre guillemets, qui portent leurs revendications, qui sortent dans la rue. Il y a des gens qui ont reproché que Valérie Pécresse se soit mêlée à la manifestation, ce qui leur a permis de dire que c'était une manifestation de droite, ce qui est juste hallucinant parce qu'il y avait tous les partis politiques et que Valérie Pécresse est venue en tant que présidente de la région Île-de-France et qu'en fait, bah, c'était, entre guillemets, son rôle politique d'être là, faut arrêter de se leurrer. Qu'elle est venue parler, en fait, aux associations qui représentent et essayer d'exprimer une sorte de solidarité antiraciste. Alors, feinte ou pas, parce que venant de Valérie Pécresse, voilà. Hein. Mais elle était dans son rôle politique, oui. Je veux dire, voilà, au même titre qu'il y avait aussi des anarchistes, il y avait les Verts, il y avait le Parti communiste, il y avait le Front de gauche. Mélenchon a envoyé un émissaire, je crois, où est venu lui, je ne sais plus. Enfin, ouais, voilà, on voyait, donc il y a toutes les courants politiques, surtout qu'on est quand même un petit peu en campagne électorale. Donc tout le monde était là. Donc de dire que c'était une manif de droite, c'est un petit peu un raccourci vulgaire, je dirais, et un peu idiot, parce que c'est pas du tout le cas. Sauf qu'en fait, bah, le fameux racisme latent dont il parlait, bah, on l'a vu. Et on l'a vu surtout dans les médias, justement. Et y compris dans les médias alternatifs. Et c'est là que ça devient un petit peu angoissant, voire gênant. C'est quand, en plus, même les médias qui sont soi-disant inclusifs, font attention à tout et sont super, super forts pour bien, bien parler, bah, se mettent à dire des énormes conneries et que, du coup, ils entretiennent cette espèce de racisme latent qu'on a, effectivement, vis-à-vis des personnes qui viennent d'origine asiatique en France. Alors déjà, ça commence par le fait que ben, le Zhang Shaolin a perdu son nom. Il s'appelait généralement le tailleur chinois, entre guillemets. Hein. C'est génial hein, de réduire quelqu'un à sa profession plus ethnie, c'est génial. C'est juste un petit peu ce que font généralement bah, tous les trucs d'extrême droite. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est comme quand on dit on va prendre une bière à l'arabe du coin. Vous voyez, c'est un petit peu le truc. Hein. D'un seul coup, l'épicerie ne s'appelle plus épicerie. C'est ces petits trucs un peu latents comme ça. Donc, on avait une belle démonstration parce que partout, on vous a parlé du tailleur chinois et des Chinois de Paris. Alors, j'ai cherché si une association se revendiquait comme ça. Parce que effectivement, ça aurait été possible qu'une association dise on est l'association des Chinois de Paris. Bah, sauf que non. Donc, je ne sais pas où les gens ont pioché cette expression, si ce n'est en voyant qu'il y avait plein de gens d'origine asiatique et de se dire la majorité ont l'air à peu près chinois, donc c'est les Chinois de Paris. C'est un petit peu gênant aussi quand on commence à faire de l'amalgame comme ça et quand on utilise des grands mots, vous voyez, c'est un petit peu
les
comme.
Les grands ensembles.
Grands ensembles, c'est un petit peu comme les musulmans, vous voyez, c'est un peu pareil, ou les arabes, vous voyez, ou je ne sais pas, les juifs, vous voyez, c'est un truc un peu bizarre. On sent bien quand une phrase commence par un truc comme ça, ça va mal partir derrière. Bah, là, les personnes ont eu le droit à ces ouvertures. Généralement, les Chinois de Paris manifestent. Bah, oui, évidemment. Donc, cette espèce de globalisation. Et donc, en fait, bah, tous les descendants d'origine asiatique et toutes les personnes avec toutes les personnes qui ont une carte d'identité d'un pays non français et qui sont reconnues comme asiatiques, enfin, chinois, vietnamiens ou autres, bah, sont devenus les Chinois. Voilà. Et vous voyez, il y a plein de gens qui disent d'ailleurs, sur les réseaux sociaux en particulier, que c'est un petit peu gênant. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas trop dans cette appellation-là.
Et je l'ai même entendu sur une radio très proche.
Bah voilà, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc c'est un des exemples, vous voyez, de ce côté latent. Et puis, il y avait un petit peu l'idée aussi que c'était la première fois qu'il sortait dans la rue. Voilà, je cherchais comment tourner ma phrase, excusez-moi. Donc c'était la première manif comme ça. Alors, je ne sais pas où les gens vous étiez. Ben, je tiens juste à vous signaler qu'il y en a déjà eu une en 2010 qui a réuni 25 000 personnes, hein, qu'il y en a eu une en 2011, à peu près à la même date, une autre en 2012 et ainsi de suite jusqu'à 2016. Donc on voit bien que, alors certes les manifs, je vous l'accorde, entre 2012 et 2016 n'ont pas réuni autant de monde qu'en 2010, mais il y a chaque année des gens qui descendent dans la rue pour dire on en a marre de ne pas avoir la sécurité auquel on a le droit. Je vais juste rappeler quand même que ces manifestants ne demandaient quand même pas grand-chose. Leur slogan était de dire « on aimerait vivre comme les Français ». Voilà. Et comme les Français que nous sommes, d'ailleurs. Il y avait les Français, virgule, et les Français que nous sommes. Donc, c'est pas compliqué. Ils demandent juste, ils demandent pas une faveur d'exception. Ils demanderaient juste à avoir la sécurité et vivre tranquillement sans être discriminés. Donc voilà. Et puis, ben, y a aussi un truc, moi, qui m'a énormément choqué. Alors ça, c'était beaucoup sur les... moi, je vous conseille d'aller vous balader sur les réseaux sociaux, sur les sites alternatifs, tout ça. Et vous verrez un petit peu ben, les clichés, les fameux clichés qui sont dénoncés par ces manifestants qui apparaissent. Alors par exemple, c'est, ben, vu qu'ils se font attaquer, ils n'ont qu'à faire du karaté. Bah oui, parce qu'a priori, toute personne d'origine asiatique sait faire du karaté, d'après les personnes qui écrivent ça. Et donc, je dois imaginer que tous les Français moulent les camemberts à la louche et ont un coq sur leur balcon. Mais voilà, c'est assez hallucinant de lire ça chez des gens qui, dans la même phrase, quelques phrases après, vous parlez d'inclusivité et compagnie. Alors, il y a aussi l'idée aussi que bah, c'est un peu vrai que les Chinois sont riches. Vous voyez ?
Ah ouais.
Voilà, alors c'est marrant parce que ça m'a rappelé un épisode de South Park où en fait ils font un petit délire sur le complotisme américain où qui part du principe que tous les juifs sont riches et qu'ils auraient tous autour du cou une petite bourse d'or, vous voyez. Bah là j'ai l'impression de relire à peu près les mêmes choses, c'est quand tous les Chinois ont l'impression voilà devraient avoir une petite bourse d'or autour du cou. Non mais c'est ridicule, non, mais c'est ridicule,
c'est
affligeant de lire ça et surtout de lire ça comme étant une espèce de justification de l'agression, parce que oui. c'est là que ça devient tordu, c'est-à-dire que d'un seul coup on dit ah bah oui mais c'est un peu vrai quand même. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand il y a une agression antisémite et puis qu'on dit ouais mais s'il portait pas sa kippa, ou quand il y a un viol et qu'on dit bah si elle avait pas porté une jupe, bah là c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'acceptation du fait que bon, si on fait taper dessus, c'est un peu normal quand même. Voilà. Donc c'est un racisme latent et on le voit vraiment. Et là je vous dis franchement, j'ai surfé là sur les réseaux sociaux que dans des sphère dite de gauche ou alternative ou anarchiste, hein, donc je suis pas allé dans le point Le Figaro ou autre, hein. Voilà. Alors il y a aussi des gens qui disent bah oui mais c'est normal qu'ils se font taper dessus parce qu'ils sont petits. Alors je vous conseille quand même, ouais. Alors je vous conseille quand même, amis qui tapaient des conneries comme ça. D'abord, allez vous balader en ville parce que vous verrez déjà vous verrez que les gens sont très différents. Hein. Rencontrez-les, vous allez voir ça va être vachement bien. Puis alors c'est une connerie. Mais en plus, et là aussi, ce serait une sorte de justification.
Oui, c'est ça.
Ils sont petits, on n'a qu'à leur taper dessus. Hein, bon, voilà. Et puis, après, bien sûr, bah, ça, c'est lié encore une fois à la présence de Valérie Pécresse dans cette manif qui permet aux gens de dire ah bah ouais, ils se sont fait taper dessus, mais moi, je m'en fous parce qu'ils sont tous de droite. Voilà.
D'accord.
Oui.
Donc en fait, c'est quand même des gens qui ont une notion très particulière du vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire, soit t'es d'accord avec eux, soit t'as le droit de mourir.
Voilà,
quoi.
C'est assez bizarre.
Non, mais ces gens, non mais les gens qui déclarent ça, se pensent vraiment de gauche ?
Je sais pas, mais en tout cas, ça démontre en fait que effectivement, ce que disent les associations qui représentent les gens qui étaient dans la manif est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a un racisme latent et que dès que ça concerne les personnes asiatiques, on a tendance en fait un petit peu à minorer le problème ou à s'en foutre, quoi, pour être très clair, je vais le dire comme je le pense, et ça se ressent. Et qu'on le veuille ou non, ça se ressent assez fortement. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on voit la condescendance des médias, mais surtout, en fait, la méconnaissance de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les Asiatiques de France. Parce que je vais faire un petit rappel quand même, hein. Tout petit rappel, attention, géographie. L'Asie, je vous rappelle, d'un point de vue du concept accepté d'un point de vue géographique dans le monde entier, parce que vous savez qu'il y a une convention internationale de la géographie qui dit à peu près où commencent les continents et où ils terminent, même s'il y a des discussions, mais en gros on y est. L'Asie, ça va de la Turquie, la moitié de la Russie, l'Irak, l'Iran, ça va jusqu'au Japon, ça chope la Malaisie et ça passe par l'Inde. Ça en fait quand même des pays.
Bah, c'est très réducteur, quoi.
Donc, parler des Asiatiques de France, entre guillemets, pour réduire à une communauté, ça devient complexe. Hein, je ne sais pas comment vous y arrivez. C'est un petit peu comme si les gens me disaient les Africains de France pour parler du Maghreb à l'Afrique du Sud, vous voyez. C'est un peu pareil. C'est d'une condescendance terrible et c'est surtout complètement con. Faut quand même dire ce qui est. Donc on voit bien qu'effectivement, bah, ce qu'il souligne est très vrai, parce qu'on le lit, on le voit, on l'entend, et que c'est compliqué, en fait, voilà. Alors, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'en réalité, en France, quand on parle d'asiatique, entre guillemets, en réalité, ça vient d'une vieille habitude coloniale. Oui, oui, alors attention, amis auditeurs, auditrices, je vous rappelle que la France a colonisé une partie de l'Asie, à une époque, hein. On se replonge dans ses cours d'histoire, hein, et on regarde, si, c'est vrai. Et voilà. Donc, et en fait, on disait, en fait, asiatique, à l'époque où on on avait la Cochinchine, comme on disait, la Cochinchine. Voilà, ce qui était une appellation horrible. Mais voilà, donc en gros, ça me prenait une petite partie de la Chine, les Vietnamiens, les Cambodgiens, un petit peu des Birmans. Voilà, mais c'était donc ça, c'était les Asiatiques à l'époque coloniale. Vous voyez, c'est pour faire un peu simple. Et bah, malheureusement, c'est un peu resté dans nos têtes. Donc on voit bien que la construction aujourd'hui de la vision de ce qu'on appelle entre guillemets les Asiatiques de France, en réalité, ce n'est que la continuation d'une bonne vieille bon vieux colonialisme quand même, et c'est quand même assez terrible. Alors, je vais faire c'est pas glorieux, on va dire ça comme ça. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous inviter à aller voir un sketch d'un humoriste qui s'appelle Bui Haimin et qui le sketch s'appelle Les Hiboux. Voilà. Et il vous expliquera dans son sketch qu'en fait, ben, ça date, c'est vieux, parce qu'aujourd'hui, les Asiatiques, ils sont largement majoritaires. Et c'est nous, les hiboux, avec nos grands yeux, qui sommes en réalité minoritaires. et voilà. Donc, allez le voir, parce que c'est vraiment très bien. Je mettrai le lien sur le blog. Mais c'est juste pour faire une parenthèse un peu humoristique dans ce papier un petit peu lourd. Voilà. Alors, je vais juste rappeler quand même que, bah oui, comme je l'ai dit, donc, il y a bien, en fait, un passé colonial aussi à étudier et à comprendre par rapport aux populations qui viennent d'une partie de l'Asie, du coup, pas de toute l'Asie, parce qu'on n'a pas colonisé l'ensemble de l'Asie, mais d'une partie de l'Asie, et qu'il ne faudrait pas non plus balayer ça de la main parce qu'ils ne la revendiqueraient pas de la même façon que d'autres personnes qui ont pu être colonisées par le passé. On va enlever tout de suite un truc, des gens qui m'ont sorti, parce que j'en discutais avec deux, trois personnes, oui, mais il n'y a pas eu de guerre. Alors je pense qu'il faut revoir vraiment vos livres d'histoire, parce que Dien Bien Phu, c'est pas en Algérie, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, donc il y a eu d'autres guerres de décolonisation et d'autres guerres contre la France par des peuples qui voulaient leur autonomie. Et donc il faudrait peut-être se remettre un petit peu ça en tête, parce que je pense qu'on a un réel problème avec notre histoire de France et qu'il faut arrêter de focaliser sur que ce qui, entre guillemets, nous intéresse. Et puis ben, prendre une prise de conscience des difficultés qu'il y a, notamment au niveau de la langue. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, et ça c'est une des revendications des associations, c'est d'avoir des traducteurs dans les commissariats, dans les hôpitaux, dans les lieux où on sait qu'il y a une forte probabilité que des gens arrivent avec une langue d'origine asiatique, du continent asiatique. Alors ça veut dire qu'il faut beaucoup de voilà. Mais juste comme le faisait remarquer un des tenants de la manifestation, en réalité, si les autorités demandent, on peut dire quelle est la langue qui va être la plus probable. Donc il suffit juste des fois de poser la question aux associations concernées et de travailler avec elles pour que ben on évite ce qui a pu probablement se passer pour cette personne, c'est-à-dire qu'elle reste dans la salle d'attente parce que ben, personne ne comprend ce qu'elle dit et qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui dit et que du coup ben c'est assez terrible. Voilà, et ben c'était un petit peu pour faire un point là-dessus parce que ça m'a tellement hérissé le poil de voir que finalement, que ce qui était dénoncé dans la manifestation était vraiment vrai dans les médias, que je voulais quand même le souligner ce soir.
Et voilà. Même les médias alternatifs.
Oui,
moi, c'est surtout ça que je
c'est ce qui m'a le plus choqué perso, je le dis comme je le pense, c'est que ça m'a vraiment choqué que d'un seul coup, alors qu'on donne des leçons, mais je dis on, c'est parce qu'on fait partie, nous, la causerie des médias alternatifs, donc je dis on, voilà. On donne des leçons dans tous les sens sur plein de trucs et sur l'inclusivité et des choses comme ça. Et là, franchement, enfin, c'était franchement à côté de la plaque, quoi. Et c'est grave de passer à côté d'un mal-être et d'un malaise exprimé. Je le redis, hein, les premières manifs, c'est 2010, hein, ça fait 6 ans. Donc on n'est pas dans un malaise qui viendrait d'apparaître aujourd'hui. Donc on est quand même dans quelque chose, y compris nous, on est passé à côté, quoi.
C'est certain.
Voilà.
On passe à la musique.
Eh ben musique.
Allez. We'll be right back.
vous êtes bien de retour dans la causerie dimanche 22-23 sur Radio Canu ou sur radiocanu.org si tu ne nous écoutes pas avec la FM. Voilà. C'était Lindsey Stirling avec le titre The Arena, issu de son nouvel album. Voilà. Et on va enchaîner avec un... Alors, je vais le dire, avec un article qu'on va vous lire, qui est porté dans la causerie par Fab et Jean-Yves ce soir.
C'est ça. Voilà. On va pas mettre tout le monde dans le même bateau.
Exactement.
Et alors c'est un texte qui sera sur les élections, en fait, qui est tiré de l'encyclopédie anarchiste. En fait, c'est un peu parce que là, on commence vraiment tout doucement à rentrer dans tout ce truc là des élections.
Pas doucement, on y rentre.
Ouais, on y rentre en fait. Plus les primaires, etc. Et que on avait envie de partager un texte autour des élections. Voilà. Et pour présenter vite fait l'encyclopédie anarchiste, je vais vous en lire le préambule. Donc, l'encyclopédie anarchiste est placée sous la direction de Sébastien Faure. La rédaction en est assurée par des théoriciens, militants et écrivains anarchistes, des théoriciens militants et écrivains syndicalistes, des théoriciens militants et écrivains révolutionnaires, des spécialistes et techniciens sans parti. Bien-être pour tous, liberté pour tous, rien par la contrainte, tout par l'entente libre. Tel est l'idéal des anarchistes. Il n'en existe pas de plus précis, de plus humain, de plus élevé. L'encyclopédie anarchiste n'est pas une entreprise commerciale, c'est une œuvre d'éducation libertaire. Ceux qui la rédigent et ceux qui la publient n'ont en vue que la satisfaction qu'ils placent au-dessus de tout, de propager partout les sentiments et les convictions qui les animent et auxquels ils ont consacré leur vie. À tous ceux qui, bravant les privations, les calomnies et les persécutions, militent, où que ce soit, pour assurer et hâter l'événement d'une société anarchiste, cet ouvrage est fraternellement dédié. L'encyclopédie anarchiste est destinée aux millions de parias de toute nationalité qui souffrent de la détestable organisation sociale dont, matériellement et moralement, ils sont les victimes. Ils y trouveront les lumières et ils y puiseront l'énergie qui leur sont nécessaires lorsque, animés de l'esprit de révolte, ils seront résolus à se libérer. Ni Dieu, ni Maître, vous tous qui êtes courbés sous le joug de l'État, du capital et des églises, sachez que le salut est en vous, tout en vous, rien qu'en vous. Voilà une petite... petit préambule qui positionne tout ça.
Ouais. Alors rappelez que le texte qu'on va lire quand même date des années 20-30, entre 1920-1930, hein, parce qu'on va arriver en 2020, donc on va pouvoir dire
ça. Oui, c'est ça, qu'à un moment donné on cite des dates et que même le français utilisé était...
C'est un très bon français. Et voilà. Et juste faire une parenthèse avant que je démarre, c'est rappeler que si vous cherchez dans l'encyclopédie anarchiste la causerie, vous saurez pourquoi l'émission s'appelle comme ça.
C'est ça.
Voilà.
Bien placé.
Eh bien oui, ça donnera envie aux gens d'aller sur le site et tu peux donner le site.
C'est vrai, c'est encyclopédie-du-milieu, le 6, je ne sais pas comment vous dire. Pardon. anarchiste.org. Et là, vous trouvez tout.
Elle est en libre accès.
C'est ça.
Bah, elle se trouve aussi en livre, mais ils sont un peu chers.
C'est ça.
Alors, j'y vais.
Allez,
donc c'est écrit comme une encyclopédie. Élection. Action de choisir d'élire quelqu'un par voie de suffrage, l'élection d'un député, les élections municipales, les élections sénatoriales, etc., etc. Si la bêtise et la passion qui président aux diverses élections n'étaient pas des facteurs d'asservissement et de domination sociale, il nous faudrait rire de ces transports collectifs qui, à date déterminée, soulèvent les foules. D'apparence, pour l'homme qui regarde, une élection peut sembler un vaudeville de premier ordre, monté par un metteur en scène plein de génie. Mais pour celui qui raisonne, qui ne s'arrête pas à la surface des choses, mais qui veut les pénétrer, c'est une terrible tragédie.
Les élections approchent, et un vent de folie souffle au-dessus des hommes. Pendant 4 ans, si ce sont des élections législatives, la population est restée calme et tranquille. Pendant 4 ans, l'électeur, jouissant de ses droits civiques et politiques, s'est tenu à l'écart de tout ce qui se passait dans le pays. Il est resté sourd à tous les appels de ceux qui s'intéressent sincèrement à son sort. Mais les élections approchent, et tout à coup, comme mu par un ressort, il se souvient qu'il est le maître, que rien ne se fait sans lui, qu'il est le peuple souverain, qu'il fait des lois qu'il ignore, et sa valeur le gonfle d'orgueil.
Les élections approchent et les murs se couvrent de placards multicolores sur lesquels les candidats offrent et promettent à leurs électeurs un avenir plein de bonheur et de jouissance. La foire électorale est ouverte, les adversaires se mesurent et nous nous garderons bien de rappeler toutes les insanités, toutes les ignominies, toutes les insultes, toutes les injures que se lancent mutuellement les nombreux candidats. C'est l'étalage le plus répugnant, le plus infâme, le plus honteux de toutes les bassesses et de toutes les tares individuelles. Ça ne fait rien. C'est parmi ces hommes qui n'hésitent pas à étaler leurs vices que l'électeur doit choisir son représentant.
La place est bonne, car en dehors de la, re... car en dehors de la rétribution qui n'arrive certainement pas à payer les frais occasionnés par une élection, il y a les petits avantages cachés. N'est-ce pas un élu socialiste du conseil municipal de Paris qui déclarait qu'un conseiller qui ne gagnait pas 100 000 francs par an était un imbécile ? Que doit alors gagner un député ? La place étant bonne, on comprend que la bataille soit chaude.
L'électeur, oubliant tout ce qu'il a souffert depuis des années, oubliant toutes les promesses qui lui furent faites précédemment et qui ne furent pas tenues, naturellement, se pâme devant l'éloquence de son candidat préféré. Il écoute avec avidité les paroles mensongères que lui débite son pantin. Et alors que durant 4 ans, il a vécu relativement en bonne harmonie avec son voisin, ce dernier devient tout à coup un ennemi parce qu'il entend porter ses suffrages sur le nom d'un autre forban.
Avec la diffamation, la corruption est un des plus puissants facteurs de réussite. Aussi ne se gêne-t-on pas pour en user en période électorale. La sincérité n'a pas d'importance et n'entre même pas en jeu. Et moins l'on est sincère, plus on a de chances de triompher. Tous les moyens sont bons et les consciences s'achètent comme une ville marchandise.
Et cela est logique. Car qu'est-ce en réalité une élection, sinon une bataille que se livrent les colporteurs qui représentent des maisons différentes ? L'idée, la doctrine ne sont que des paravents derrière lesquels se cachent des appétits. Et le candidat n'est jamais qu'un homme de paille au service d'une entreprise commerciale, industrielle ou financière. C'est cela que l'électeur ne veut pas admettre.
Arrive le jour du suffrage. Fier du rôle qu'il remplit, l'électeur va voter et attend dans la fièvre le résultat de son geste. Il est dans la même situation que le spectateur qui, n'ayant pas joué, attend sur un champ de course l'arrivée du gagnant. Que peut lui importer que ce soit l'un ou l'autre qui arrive le premier, que ce soit le rouge ou le noir qui franchisse le poteau, puisqu'il ne peut pas gagner ? Mystère. L'électeur éprouve probablement des sensations que nous sommes incapables de ressentir. Il est peut-être pourvu d'un sens supplémentaire qui nous manque à nous, les profanes. Qui sait ? Bref, il attend chez le marchand de vin le plus souvent, car les élections est une occasion de beuverie. Et lorsqu'arrive jusqu'à lui le résultat, c'est du délire et du désappointement selon que son candidat est vainqueur ou vaincu.
Il y a parfois match nul. Alors la comédie recommence. Mais dans les coulisses... Hop là, pardon. Mais dans les coulisses se prépare une mise en scène particulière car la représentation ne peut avoir lieu que 2 fois. Le scrutin de ballotage n'est qu'une question d'argent et ceci est si brutal qu'il est inconcevable que les lecteurs s'en aperçoivent pas.
Supposons un candidat ayant obtenu au premier tour de scrutin 1 000 000 de voix, un second candidat 800 et un troisième 500. Le troisième candidat a peu de chances d'être élu au deuxième tour de scrutin. Mais s'il favorise le second, c'est-à-dire s'il engage ses électeurs à voter pour lui, voilà que le premier candidat arrive bon dernier. Et on assiste à des revirements symboliques. Tel aspirant député qui, lors de la campagne, accusait son adversaire de tous les délits, de tous les crimes, de toutes les infamies, se rapproche de lui au second tour et lui découvre des qualités politiques que l'on n'aurait pas imaginées une quinzaine plus tôt. Et l'électeur gobe tout cela, il accepte, il ne dit rien, il vote.
À quoi bon insister sur la moralité ou l'immoralité d'une élection ? Il n'y a que celui qui le veut, qui ignore les tractations auxquelles donnent lieu les élections. Mais même au point de vue logique, en supposant qu'une élection offre toutes les garanties d'honnêteté, le résultat est ridicule en soi. De nombreux exemples ont déjà été cités dénonçant l'erreur sur laquelle repose le principe même de ce genre d'opération. Ajoutons-en un, la liste est déjà longue.
Le dimanche 12 décembre 1926, une élection partielle eut lieu dans le Nord. Il s'agissait de pourvoir au remplacement de 3 députés. 4 listes de candidats étaient en présence. La liste d'Union nationale républicaine, la liste socialiste, la liste communiste et la liste des Républicains du Nord.
Or, voici les résultats de cette élection. Inscrits 516 148 votants. Suffrage exprimé 431 683. Liste d'Union nationale républicaine. Monsieur Coquel, 193 353 voix. Monsieur Carlier, 192 236. Monsieur Coutel, 192 560 élus. Ils sont tous élus. Liste socialiste. Monsieur Ingels, 142 095. Monsieur Salengro, 141 274. Monsieur Delcourt, 140 868. Liste communiste, Monsieur Thorez, 65 803. Monsieur Bont, 65 779. Monsieur Declerc, 65 547. Et enfin, la liste des Républicains du Nord, Monsieur Desjardins, 30 548. Monsieur Sélic, 30 274. Et Monsieur de Rennes, 30 333.
Or, si nous faisons une moyenne, nous constatons que les candidats élus ne représentent qu'une minorité. En effet, les candidats de la liste d'Union nationale républicaine ont obtenu une moyenne de 192 716 voix, alors que leurs adversaires réunissent un total de suffrages donnant une moyenne de 237 596 voix. Poussons plus loin et ne calculons que les voix obtenues par ceux qui se réclament de la classe ouvrière et nous constatons que les suffrages exprimés nous donnent une moyenne de 207 121 voix et cependant ce sont les 192 000 voix qui triomphent et les 207 000 qui sont battus. Oh, logique électorale!
Nous ne voudrions pas accuser en vain de démagogues les chefs de partis ouvriers qui entraînent à la foire électorale une foule de moutons. Mais tout de même, l'exemple que nous citons ci-dessus est symptomatique. Si l'intérêt de la classe ouvrière était le seul sentiment qui anime les candidats, comment se fait-il que ceux du Parti socialiste ne se soient pas effacés devant ceux du Parti communiste ou réciproquement ? Si le parlementarisme n'est pas une comédie, et c'est ce qu'ils affirment, alors les uns et les autres ont favorisé le jeu de la réaction en laissant pénétrer dans l'enceinte législative des adversaires des classes travailleuses.
Des faits semblables à celui-ci sont légion et il serait facile de les multiplier. Mais à quoi bon ? Celui-ci suffit et suffira, pensons-nous, à tous ceux qui cherchent à s'instruire et à œuvrer utilement à la rénovation sociale. Les élections n'ont qu'un but, tromper la population et lui faire croire qu'elle est maîtresse de ses destinées et la population se laisse prendre à cette glue.
Il faut avouer que le peuple souverain commence à ne plus être dupe de tous ces simulacres et que de jour en jour, le nombre d'électeurs diminue et que le nombre d'abstentionnistes augmente. Les partis politiques sentent que leur autorité s'affaiblit et que bientôt, le pouvoir qu'ils exercent leur échappera totalement. C'est pourquoi certains partis d'extrême droite ou d'extrême gauche empruntent une tactique électorale tout à fait inattendue. De même que nous avons les militaristes antimilitaristes, nous avons également les parlementaristes antiparlementaires. Il n'est plus rare, au cours d'une campagne électorale, d'entendre des orateurs, communistes ou fascistes, reconnaître qu'il n'y a rien à faire au Parlement, qui est un foyer de corruption. Mais, ajoute-t-il, les élections sont pour nous une occasion de créer une agitation favorable au développement de nos idées et aussi un moyen de nous compter et de connaître les forces dont nous disposons.
Fort bien, et l'argument mérite qu'on s'y arrête. Proposons donc à nos parlementaristes antiparlementaires de poursuivre leurs actions électorales, mais demandons-leur de n'accepter aucun mandat et de se refuser à siéger aux Folies Bourbon. Ils refusent tout naturellement, en objectant que les avantages pécuniers dont bénéficient les députés permettent à ces derniers de faire une propagande active en faveur du parti qu'ils représentent. Lorsque l'on sait ce que coûte une élection et ce que rapporte un mandat de député, nous ne considérons évidemment que les rétributions avouées, on se rend bien vite compte que ce dernier argument est ridicule, car les sommes fantastiques englouties durant les périodes électorales permettraient d'entretenir un nombre de militants propagandistes bien supérieur à celui des députés élus par la classe ouvrière.
Une élection n'est donc qu'un trompe-l'œil. Les anarchistes l'ont dit, ils le disent encore, ils le répéteront sans cesse.
Il est vrai que les élections sont favorables à la diffusion des idées. Les libertaires ne l'ignorent pas et en période électorale, ils sont au premier rang dans la bataille, se dépensant afin de faire comprendre à leurs frères de misère tout le vide de l'action parlementaire. Ils veulent éclairer les lecteurs.
Qu'on tâche d'éclairer ces hommes, dit Urbain Goyer dans La Révolution vient-elle, de les améliorer, de les élever, ils vous soupçonneront, vous abreuveront d'outrage. Mais la foire électorale ouverte, ils courent d'instinct aux charlatans les plus vils, aux malfaiteurs les plus cyniques. La bassesse les enchante, plus les mensonges sont grossiers, plus avidement ils les gobent.
Il est hélas trop vrai que la veulerie populaire lasse souvent le militant sincère qui se brise à la tâche et se sacrifie à une cause commune. Mais quoi ? Ne doit-on pas tenir compte de tout un passé d'esclavage empêchant le travailleur de s'instruire et de s'éduquer ? Le peuple vient à peine de s'éveiller, et si l'on jette un regard en arrière, si l'on considère tout le chemin parcouru depuis un siècle, on constate alors tous les progrès réalisés, toutes les transformations accomplies, tous les avantages arrachés petit à petit à la bourgeoisie rapace et jalouse de ses privilèges.
Bien des institutions barbares ont disparu. Les élections disparaîtront également un jour, car malgré tout, la méfiance a pénétré déjà dans le cerveau du travailleur, et c'est le commencement de la fin.
Poursuivons donc, anarchistes, notre œuvre, pour qu'enfin, la raison saine et pure dirige l'humanité, et qu'avec les élections disparaisse le dernier esclave, l'électeur.
êtes toujours à l'écoute de La Causerie et c'était Roy Sop avec le titre Vision One.
Et c'était bien, c'était sautillant.
C'est vrai.
Et je redis que le texte qu'on a lu avant était porté par Fab et Jean-Yves.
C'est ça.
Pour être clair, pour que les gens comprennent qu'à La Causerie, il n'y a pas une pensée unique.
C'est ça. Alors, on va terminer par des brèves, parce qu'on est vraiment à la bourre.
Oui. Alors, lundi, comme tous les lundis, à 18h30, à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e, il y a une permanence de soutien aux sans-papiers et aux proches de sans-papiers. C'est une permanence juridique. Voilà.
Et le rendez-vous suivant, c'est la manif, toujours contre la loi travail. C'est l'initiative de la CGT, FOFSU, Solidaire, l'UNEF, l'UNL et FIDL. Ça commence donc à la manufacture des tabacs. Ça ira jusqu'à Bellecour et le départ est à 11h. Et ça fait chier.
Si je dis pas de conneries, les deux CNT sont aussi CNTSO sont aussi dans l'appel.
Eh ben, très bien, voilà. Cool. Donc voilà. Rendez-vous suivant,
c'est le 17 septembre, donc c'est un concert de métal extrême. Alors me demandez pas ce que c'est, il paraît que c'est du hardcore, greencore, tout ça. Moi je connais pas tout à fait, mais il paraît que ça fait beaucoup de bruit. Et c'est en soutien aux migrants et réfugiés, c'est au CCO de Villeurbanne à 19h. En pré-vente, le prix d'entrée est à 15€, sur place il est à 17€, donc je vous conseille d'aller le chercher en pré-vente. Et vous trouvez toutes les infos sur Rebellion.
C'est voilà. Ça. Toujours le samedi 17, mais c'est un petit peu avant. C'est à 15h, c'est à la librairie La Griffe qui fait un débat, ou je ne sais pas comment on peut dire, une présentation en tout cas de la situation politique en Chine, banalité et paradoxe, avec Jean-Louis Roca. Voilà.
Et si vous avez un tout petit peu de temps après La Griffe, de 17h à 19h, vous pouvez aller à La Plume Noire où vous pourrez voir les gens de Questions de Classe. Et si vous ne pouvez pas y aller, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez les
entendre à La Causerie la semaine prochaine. On aura des compagnons et des compagnonnes. Je m'en fous, je dis ça comme ça. Du magazine, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, ils nous diront eux-mêmes. Questions de classe.
Voilà, dimanche prochain à 22h.
C'est ça, qui est autour de l'éducation, des pédagogies, des luttes, du syndicalisme, etc.
Et un dernier rendez-vous, dimanche aussi. Donc, si vous voulez aller vous opposer à l'A45, vous allez à Mornant à partir de 11h. Alors, Mornant, c'est en direction de Saint-Étienne, quand on part de Lyon. Et vous allez à la ferme de Jérôme Guinan. C'est au lieu dit La Côte, à Mornant. A priori, Mornant, c'est pas grand, donc vous devriez trouver. Hein. Donc, de 11h à 18h, il y a des tables rondes. Il y aura des gens qui viennent notamment de la ZAD de Sivins et de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a un casse-croûte, il y a un marché paysan. Il faut discuter. Et puis, il y a l'idée de se dire que cette A45, elle passera jamais. Je vous rappelle que c'est le projet pharaonique de M. Wauquiez qui veut faire une deuxième autoroute pour aller à Saint-Étienne. Comme si on en avait besoin. Voilà.
Selon lui, oui. Alors, je suis pas sûr.
Je pense selon lui et selon ses amis
du BTP.
Du BTP, oui. C'est ça. Moi, perso, je vois pas trop l'intérêt. Mais enfin, voilà.
C'est ça. Eh ben, je crois qu'on se quitte là. Oui. On vous rappelle donc le rendez-vous de la semaine prochaine de La Causerie 22-23, toujours les dimanches.
Oui. Avec questions de
questions
classe.
Questions de classe.
Voilà.
On va se quitter avec un petit big up.
Ouais.
Je sais pas si ça se fait comme ça, mais à Fanélie de l'émission Stan Farm. Qui est
Stan Farm.
Ouais, mon anglais n'est pas très très bon et ça beaucoup le savent, qui est une émission de reggae qui passe le dimanche et qui nous a soufflé ce petit titre qu'on va passer pour se quitter, qui est le titre Here I Stand de Taj, Wikis et Adoa.
Ouais.
Et qui est un titre, alors pas forcément très reggae pour les
puristes,
mais en tout cas c'est un artiste de Sainte-Lucie qui est dans la mouvance reggae et tout ça, et qui a fait un titre contre l'homophobie, ou en tout cas un hymne à l'amour quel qu'il soit. Ouais. Et c'est à souligner que c'est plutôt cool parce que le reggae des fois on l'entend plus qui appelle à faire brûler les chichimans et les lesbiennes, et là c'est bien d'entendre un hymne à l'amour.
Et moi je prends un pari, et je voudrais bien que vous nous le disiez sur le blog, que cette chanson va vous rester dans la tête mais au moins 2 jours.
C'est possible.
Voilà.
Okay. On va se quitter sur la musique. Oui. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et bon courage pour la semaine à venir.
Et merci Clara pour la technique.
De rien.
Des bisous, bisous, tout ça, tout
bisous,
ça.
Bisous, salut.
Ciao. Ciao.
Here I stand. Now I love a woman, I'm a man. She loves another, yes she can.
loves a woman, not a man. She loves a woman, not a man. Should he pretend to love a woman yet intend to find a love around the bend? Shouldn't he declare what he defends? Got a fragile picture frame. Another, yes, she can. She loves a woman, not a man. Should he pretend to love a woman yet intend to find a lover around the bend to share his love and to repent? It's not your kind.